Bon, passons. Chapitre 7. Ça, c'est une citation d'un professeur de psychologie universitaire athée. Le bien, il faisait une conférence, voilà ce qu'il dit. Le bien et le mal n'existent pas. Ce ne sont que des conventions sociales. Vous allez entendre cette expression souvent. Les conventions sociales. Des mots qu'on, ça vient de Freud, hein, d'ailleurs. Des mots qu'on utilise pour désigner ce qu'une culture particulière approuve ou désapprouve. Dans certaines tribus esquimaudes, les personnes âgées, une fois qu'il est déterminé qu'elles sont plus utiles à la société, sont placées sur un bloc de glace et poussées au large pour mourir de faim. C'est leur coutume. Et qui sommes-nous pour dire que ce qu'elles font est mal? Les naturalistes ont beau dire, ont beau répéter les slogans, la morale est relative, à chacun sa morale. Ils n'y croient pas du tout dans la réalité. Et nous voyons ça tous les jours. Je suis au supermarché, je suis à la caisse avec mon chariot, j'attends de payer. Il y a une dame qui arrive et qui passe devant moi. Moi, je dis, excusez-moi, madame, mais j'étais là, je faisais la queue déjà, et là, vous êtes passé devant moi. Qu'est-ce qu'elle va dire? Bon, il y a des possibilités. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, excusez-moi, je ne vous ai pas vu. Ou bien elle va dire, s'il vous plaît, monsieur, ma fille est malade et je suis très pressé. On va dire, mais excusez-moi, mais là vous avez un chariot rempli, moi j'ai que deux trucs. On peut attendre ça, entendre ces choses. Mais je vous garantis, elle ne dira jamais, d'accord, tu faisais déjà la queue, et alors la morale est relative. Chacun a sa propre morale. Ma morale est différente de la tienne, tant pis pour toi. Qui va dire ça? Personne. C'est une affaire mineure, hein. Quelqu'un passe devant toi dans un supermarché. Une affaire mineure. Mais nous savons qu'elle a mal agi, n'est-ce pas? Nous savons tous qu'elle a mal agi. Nous le savons aussi clairement que nous savons que la barbarie de l'État islamique est un mal. Bon, c'est pas le même genre de mal. Il y a des résultats, des conséquences très différentes. Mais dans les deux cas, nous savons ce qui est bien et ce qui est mal. Et nous reconnaissons quand il y a un mal qui a été commis. C'est un acte moralement condamnable. Alors, à une certaine époque, dans les années 60 par exemple, il y avait cette idée, chacun fait sa propre morale. Bon, ça peut pas marcher. Non, franchement, même pour les athées, si chacun décidait ce qui est bien et mal, ce serait le chaos total. Maintenant, on a changé un peu de disque, on dit la morale de bien et de mal est déterminée par chaque culture, d'accord? Par chaque société. C'est pas l'individu qui détermine ce qui est bien et le mal, c'est la société à laquelle il appartient. Est-ce qu'on peut dire avec notre brave professeur de psychologie que le bien et le mal sont des conventions sociales qui varient d'une société à l'autre, d'une culture à l'autre, d'un groupe à un autre, et qu'on n'a pas le droit de condamner des pratiques qui n'appartiennent ou qui appartiennent à d'autres sociétés. On n'a pas le droit de juger ce qui se passe dans une autre société. Pourquoi? Parce que la morale est déterminée par les sociétés. Bien sûr, on peut le dire. Mais personne n'y croit, en réalité. Car si nous le croyons, vraiment, nous ne passerions pas notre temps à dire que certaines sociétés sont moralement supérieures à d'autres. Réfléchissez à ça. Si on croyait cela, vraiment, la morale est relative à l'origine communautaire et ne vaut que pour cette communauté. Qu'est-ce qu'il faut dire? La morale de l'État islamique vaut la morale de n'importe quel autre pays. Il faudrait dire que la morale de la mafia et la morale de Médecins sans frontières, c'est pareil. Qui fait ça? Du moment qu'on prétend que la morale enseignée à la synagogue juive d'à côté est supérieure à la morale enseignée par Boko Haram, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à une morale qui existe en dehors et au-dessus des sociétés. C'est un code moral qui nous permet de juger les sociétés. Et c'est exactement ce qu'on lit dans la Bible. La loi morale ne dépend pas de la société. C'est pas la société qui décide ce qui est bien et ce qui est mal. Petite parenthèse. En France, ça devient de plus en plus une réalité. Il faut changer le mot société par le mot État. Pour les Français, le bien et le mal sont déterminés par l'État français. C'est vrai. Si l'État dit que l'avortement est moralement un bien, bon, il faut accepter. Mariage homosexuel, rien. Chaque fois, ce n'est même pas la société qui décide, c'est l'État. Il y a une raison pour ça. Une raison philosophique, mais on n'a pas le temps d'en parler maintenant. Si on se permet de juger les actes d'un groupe social, d'un État, d'une société, ça veut dire qu'il y a une loi au-dessus de ces sociétés. C'est pas la société qui détermine ce qui est bien. Si c'était le cas, on pourrait condamner aucune société. L'État islamique, l'Allemagne nazie, aucun. Parce que c'est la société qui détermine. Et nous, qui sommes-nous pour juger? Au fond, nous croyons tous à l'existence d'une loi morale en dehors de nous, en dehors de notre société. Et cette loi fait autorité. Cette loi sert de norme à tout le monde, à toutes les époques. C'est pas simplement nos préférences personnelles, c'est pas les préférences d'une culture ou d'une société particulière. Nous faisons tous appel à cette loi morale objective et nous voyons cette loi comme faisant partie du monde réel. Et là, regardez notre maison à deux étages. J'ai lu un article l'autre jour dans le New York Times. C'est un professeur de philosophie, il est chrétien, il enseigne dans une université chrétienne et il dit ceci. Quand les étudiants arrivent chez nous, donc quoi, 18, 19 ans, ils arrivent chez nous, ce sont déjà des relativistes. C'est pas la fac qui les change. Ce sont déjà. Il dit, mais ça me trouble. Alors un jour, il y avait un truc, une réunion parents, profs à l'école, donc il entre dans la salle de classe de sa petite fille. Je sais pas, c'est quelque chose. Elle a 6 ou 7 ans. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit sur le tableau une affiche. La différence entre une opinion et un fait réel. Un fait réel, c'est quelque chose qui peut être prouvé par la science. Tout le reste est opinion. Donc, les enfants grandissent avec cette idée, tout ce qui est moral est irréel. C'est une opinion. C'est subjectif. Ça ne correspond à aucune réalité vraie. Donc, quand ils arrivent à la fac, ils croient que la morale n'est pas réelle. C'est pas une chose réelle. J'ai même regardé ça dans les églises. Vous savez, quand quelqu'un, je parle ici surtout des jeunes, quand ils quittent l'église, c'est pas vraiment un déchirement. C'est pas après un conflit intérieur intense. Non, ils changent. C'est comme ils zappent, ils changent de chaîne. Parce qu'au fond, ils vivent toujours dans la maison à 2 étages. Leur foi et la morale, c'est une opinion. C'est subjectif, on peut changer quand on veut. On n'est pas en train de sortir de la réalité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être une des raisons pour cela. Alors, C.S. Lewis, il y a beaucoup de citations maintenant. En effet, n'entendons-nous pas tous les jours des gens éduqués ou frustres, enfants comme adultes, s'arguer ainsi? Aimeriez-vous que l'on agisse de même à votre égard? C'est ma chaise, j'étais assis avant toi. Laissez-le tranquille, il ne vous a rien fait. De quel droit jouez-vous de coudes pour doubler tout le monde? Donnez-moi un peu de votre orange, je vous ai bien donné quelques quartiers de la mienne. Venez donc, vous l'avez promis. Or, ce qui rend ces polémiques intéressantes, c'est que le plaignant n'implique pas seulement que la conduite de son interlocuteur ne lui convient pas, il en appelle aussi à un modèle de conduite que son vis-à-vis ne devrait pas ignorer. C'est quelque chose qu'on ne peut pas ne pas savoir. Qu'il existe un vrai bien et un vrai mal. Cela s'applique aux chrétiens, cela s'applique aux bouddhistes, à l'athée, à l'hindou, aux musulmans, à tout le monde, aux juifs, à tout le monde. Chacun de nous trahit tous les jours sa foi dans une loi morale objective qui existe en dehors de lui-même et en dehors de la société. Nous sommes en train de comparer deux visions du monde. La vision du monde chrétienne qui rend compte et qui explique le sens de la vie, la dignité humaine, les droits de l'homme et la morale, l'existence objective du bien humain. Notre ami athée en face, avec sa vision du monde naturaliste, il ne peut pas rendre compte de ses expériences humaines universelles. Mais, donc qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il vit? Il vient chez nous! Il nous pique nos valeurs! Mais sans autorisation, sans droit. Alors, voilà ce qu'on est en train. Il peut dire ce qu'il veut, selon sa vision du monde. Mais quand le moment vient où il doit vivre dans le monde réel, il faut qu'il vive comme si le christianisme était vrai. Et c'est ça les tensions dans sa vie. On va continuer ça, en ce qui concerne le bien et le mal. Par exemple, un professeur d'éthique athée. Il donne des cours sur le relativisme moral. Il dit à ses élèves, ses étudiants, la morale est relative. Il écrit des livres érudits sur le sujet. Il se moque couramment des ploucs qui sont assez ignorants et arrogants pour croire encore à des lois morales absolues. Mais allez lui voler son portefeuille. Et nous allons voir s'il réagit en disant, c'est pas grave, les morales varient selon les individus, selon la culture. Qui suis-je pour juger? Encore, aller tricher en passant un examen, son examen sur le relativisme moral. Mieux encore, aller rater son examen, et puis entrer dans son bureau, menacez-le d'une arme à feu, hein, pointez l'arme sur lui, dit, vous allez changer ce 0 en 20 sur 20. Miracle. Ce relativiste va changer devant vos yeux en absolutiste moral. Partisan convaincu. C'est normal, parce que s'il vivait selon sa philosophie, sa vie imploserait. Sa vie serait invivable. Un sens inné du bien et du mal a été gravé dans notre âme. Nous pouvons passer notre vie tous les jours à dire la vérité, la morale est relative. Ça ne change pas la réalité. En 1948, par exemple, Alfred Hitchcock a sorti un film qui s'appelle La Corde. C'est pas un de ses films les mieux connus, mais à mon avis, c'est le film le plus audacieux. Il faut le voir, hein. Vraiment, il faut voir si vous pouvez acquérir ce film. La Corde. Et c'est essentiellement une discussion de la théorie morale du philosophe allemand Friedrich Nietzsche. Le film illustre sur le grand écran la tension que nous sommes en train d'examiner ici. Alors, selon Nietzsche, la mort de Dieu, c'est-à-dire l'abandon de la foi chrétienne, a libéré l'homme et lui a permis de créer ses propres valeurs dans un monde amoral, dans un monde où les valeurs n'existent pas réellement. Et Nietzsche était partisan du surhomme, c'est-à-dire l'homme qui prend sa destinée entre ses mains. Il était contre le christianisme parce que le christianisme protégeait les faibles. Et pour lui, la vie n'appartenait pas aux faibles. La vie n'appartenait qu'aux forts, aux surhommes. Et il reconnaît aux êtres supérieurs le droit de tuer les hommes plus faibles s'ils n'étaient pas dignes de vivre. Alors, il y a deux étudiants, c'est l'histoire dans le film, il y a deux étudiants de prépa, et ils sont inspirés par ce que leur enseigne leur prof dans cette école. C'est à New York, hein. C'est une école de prépa de très haut niveau. Et ils décident de mettre en pratique cette morale de Nietzsche. Dans leur appartement à New York, ils étranglent avec une corde, et c'est de là que vient le titre, un étudiant qui ne jugeait pas digne de vivre. Donc c'est le meurtre comme exercice intellectuel. Ils font ça pour montrer qu'ils ont le droit, en tant qu'être supérieur, à tuer ceux qui sont inférieurs. Parce qu'il n'y a pas de Dieu. Hein, c'est eux qui font leur propre loi. Puis, pour poursuivre l'expérience, ils organisent un dîner le soir même dans le même appartement. Ils invitent les parents de la victime, la fiancée de la victime et le professeur. Et ils cachent le corps de leur victime dans un genre de bahut qui servent pour mettre les plats. Hein, c'est le genre de buffet, les gens viennent se servir et il y a le cadavre à l'intérieur. Hein, il y a la fiancée de ce gars et ses parents. Alors, le prof, il sait que bon, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Le prof, c'est James Stewart, hein, si vous voyez l'acteur. Et finalement, il commence à comprendre ce qui s'est passé. Petit à petit, il commence à comprendre. Alors, il soulève le couvercle du coffre et là, il trouve le corps de la victime. Il est horrifié. Il devient livide de honte. Parce qu'il sait que ces deux étudiants ont été inspirés par ses cours. Et il dit quelque chose, je ne me souviens pas exactement des mots exacts, mais il dit, mais ce n'était que des idées. C'est sa réaction. Auguste Comte disait, les idées gouvernent le monde ou plongent le monde dans le chaos. Les idées ont des conséquences. C'est pas simplement dans l'abstrait que nous sommes en train de parler ici. Ça semble incontestable. Tous, qu'on ne le dise ou pas, nous croyons tous au bien et au mal. Et c'est pas simplement des mots pour exprimer nos préférences personnelles ou les préférences de notre société. C'est des réalités objectifs qui existent en dehors de nous et qui sont valables pour tout le monde. Nous croyons tout cela. C'est quelque chose qu'on ne peut pas ne pas savoir. Parce que nous avons été créés à l'image d'un Dieu saint. Un Dieu de bien, de bonté. Encore une fois, nous voyons le même schéma. La vision du monde chrétienne pour rendre compte de cette croyance au bien et au mal. Rendre compte de notre expérience. Elle explique l'existence de la loi morale et pourquoi nous semblons tous connaître intuitivement cette différence. Pourquoi? Ça vient d'où? Ça vient de Dieu. C'est quoi la loi morale? C'est une expression de la sainteté de Dieu. C'est une expression de son caractère moral. Pourquoi est-ce que Dieu dit, tu ne commettras pas d'adultère? Parce que Dieu est fidèle. Pourquoi est-ce que Dieu dit, tu ne rendras pas faux témoignage? Parce que Dieu est vérité. Vous comprenez ce que je veux dire? La loi morale de Dieu est fondée sur son caractère. Et c'est le caractère de Dieu qui définit la réalité. C'est cohérent, c'est rationnel, c'est raisonnable. Les chrétiens peuvent rendre compte de l'existence de ce sentiment universel du bien et du mal, ce qu'on appelle le sens moral. C'est normal, nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est normal. Et la vision du monde naturaliste. Qu'est-ce que les athées disent au sujet de l'existence du bien et du mal? C'est un univers composé uniquement, je cite, de particules matérielles interagissant aveuglément les unes avec les autres. Comment est-ce que cela peut produire des conditions nécessaires pour engendrer le sens moral que nous expérimentons tous et que nous utilisons tous les jours? Que serait le bien et le mal si le naturalisme était vrai? Michael Ruse, c'est une bande-annonce pour le chapitre suivant. Écoutez bien, la position que tient l'évolutionnisme moderne est que la moralité est une adaptation biologique autant que le sont les mains, les pieds et les dents. J'apprécie que lorsque quelqu'un dit « aime ton prochain comme toi-même », mais qui est-ce qui cite? Il pense qu'il se réfère à ce qui est au-dessus et au-delà de soi, c'est-à-dire une vérité objective en dehors de nous. Néanmoins, une telle référence est véritablement dénuée de fondement. La moralité n'est qu'une aide à la survie et à la reproduction, c'est-à-dire c'est un truc évolutionniste. Et toute autre signification plus profonde est illusoire. Voilà ce que dit l'athée. Le bien et le mal sont illusoires. C'est simplement un développement évolutionnaire. Ça n'existe pas réellement.